Il ne s'agit pas d'un simple conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mais ce conflit révèle d'autres tensions beaucoup plus importantes, de deux types, hein, essentiellement d'abord géopolitiques, une compétition entre l'Érythrée et l'Éthiopie, l'Érythrée d'un côté se considérant comme le nouveau dragon de l'Afrique de l'Est, et bien sûr de l'autre côté l'Éthiopie, beaucoup plus importante en termes de population, je veux dire, elle revendique également ce poste de leadership régional. Ensuite, des problèmes internes, l'Érythrée comme l'Éthiopie sont toujours régis par des gouvernements assez peu observants, je dirais, des principes démocratiques, et les thèmes du nationalisme sont très importants dans les deux pays.
Alors depuis donc le début du mois d'octobre, la mission de l'ONU s'est plainte de ne plus pouvoir faire son travail en Érythrée tel que prévu, notamment parce qu'elle ne peut plus survoler la région du sud-ouest. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur l'action menée par les casques bleus en Érythrée ?
Oui, la mission des Nations Unies est particulièrement délicate puisque cette zone tampon est infestée de mines placées dans le sol. Deuxièmement, il y a des tensions récurrentes depuis l'année 2004 où en fait l'Éthiopie refuse absolument que la ville de Badme passe du côté érythréen. Il faut dire que le rapport de la commission frontalière, commission donc chapeautée par l'ONU, était très flou sur cette ville de Badme. Conséquence de cela, à partir de l'année 2004, l'armée éthiopienne regroupe un nombre important de troupes à la frontière pour essayer d'occuper le terrain. En réponse à cela, et c'est ce qu'on voit récemment, l'Érythrée décide d'en faire de même et va même plus loin en refusant le survol d'abord par les hélicoptères de l'ONU de cette zone frontière et ensuite, depuis ces derniers jours, refuse même que les véhicules de l'ONU sortent des pistes balisées pour aller enquêter plus directement.
Et l'Érythrée a annoncé qu'une reprise du conflit était possible si le tracé frontalier qui vient des accords d'Alger n'était pas respecté par l'Éthiopie. Vous y croyez, vous, à une reprise de la guerre ?
Malheureusement, il faut avouer que les tensions sont croissantes depuis quelques semaines. Du côté éthiopien, il est clair que ce conflit était une façon de resserrer les rangs, de resserrer la nation derrière le gouvernement et son premier ministre Meles Zenawi. Or, aujourd'hui, ce même premier ministre est en difficulté en Éthiopie, puisque suite aux récentes élections, le gouvernement est accusé d'avoir procédé à des fraudes massives pour assurer sa réélection. Donc un déficit de légitimité pour le Premier ministre éthiopien. Et donc oui, je suis assez pessimiste sur cette situation, une reprise éventuelle de la guerre, malgré des économies à la fois érythréennes et éthiopiennes en bien piteux état.
Mais est-ce que le fait que Kofi Annan se soit plaint directement au président érythréen ne devrait pas limiter les risques de reprise du conflit ?
Oui, simplement, moi je m'étonne que Kofi Annan n'ait pas non plus envoyé une lettre au Premier ministre éthiopien pour essayer de jouer la carte de la conciliation jusqu'au bout, puisque là, l'Érythrée joue le rôle de dire « Bon, bah regardez, les acteurs internationaux, la mission des Nations Unies ne nous adresse qu'à nous des remontrances. » Donc c'est inversement, est-ce que justement ça ne renforce pas le côté victime du gouvernement érythréen, victime de la mission d'une mission des Nations Unies tout à fait partiale et prenant cause aux côtés du gouvernement éthiopien. Concrètement, les fraudes massives notées par différents observateurs internationaux lors des dernières élections en Éthiopie n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de l'Organisation des Nations Unies, alors que là, une lettre adressée au Premier ministre Meles Zenawi se serait imposée. Donc simplement, je pense qu'il faut peut-être accentuer la démocratisation de l'Érythrée comme de l'Éthiopie pour espérer trouver une solution à ce conflit tout à fait inquiétant.